Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un personnage mal connu des plus jeunes qui fut pourtant une figure de la génération d'après-guerre. Un homme au physique de vieux sage, silhouette altière, barbe fournie, regard perçant, visage buriné, voix lente et profonde. Lanza del Vasto fut un apôtre de la non-violence dans la France d'après-guerre, quand l'Europe s'armait pour faire face à la menace soviétique. La non-violence, une idée qui fait sourire souvent, réservée à quelques doux rêveurs pour beaucoup. Et pourtant, la non-violence aurait-elle aujourd'hui encore quelque chose de prophétique à nous dire et même d'évangélique ? Heureux les doux, dit Daniel Vigne, qui est donc l'invité de ce matin pour nous parler de Lanza del Vasto. Donc Daniel Vigne qui est professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse, entre autres, et qui donc va nous aider à découvrir ce grand personnage, je disais grand personnage d'après-guerre, mort en 1981, dont il essaye de faire vivre la mémoire, si je ne me trompe pas, au sein de l'association des amis de Lanza del Vasto, n'est-ce pas,
Daniel Vigne ? Tout à fait, bonjour Emmanuel.
Alors, Lanza del Vasto, j'allais dire vaste programme. On va commencer dans cette première mission tout simplement à essayer de le découvrir avec vous. Pour certains, ça n'est qu'un nom, pour d'autres, ce n'est rien du tout. Pour d'autres, au contraire, ça évoque beaucoup de choses. Commençons par le début. Donc, Lanza del Vasto naît en Italie du Sud en 1901. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte il naît ? Il naît quand même dans une famille assez particulière, puisque c'est une famille aristocratique. On va dire, enfin, une famille qui avait un nom, qui avait une culture. Quel est son biotope familial ?
Oui, des origines nobles, dont il aimait à dire parfois en souriant qu'elle remontait à saint Thomas d'Aquin. Et cette famille aristocratique lui transmet non seulement des valeurs, mais je dirais une ouverture, des horizons qui marque son enfance déjà. Bon, sa mère est anversoise, belge, son père est italien bien sûr, mais la famille voyage en Italie, en France, en Angleterre. L'enfant d'ailleurs apprendra très tôt les trois langues. Un bain de culture, si vous voulez, et de noblesse d'âme qui certainement le marque, mais en même temps crée en lui une sorte d'ouverture à l'universel. On ne peut pas enfermer Lanza del Vasto dans une identité nationale et même historique précise. Il déborde son siècle. Il le traverse, bien sûr, puisqu'il naît, vous l'avez dit, en 1901, meurt en 1981. Mais il se sentait, comment dire, un peu d'une autre époque. Difficile de dire d'ailleurs si c'est d'avant ou d'après. Il y a quelque chose de prophétique, il y a quelque chose d'intemporel dans cet homme qui le rend à la fois fascinant et un peu insaisissable. Il se décline, il se déploie dans toutes sortes de directions. Et cela, je disais, cela dès l'enfance parce que Il hérite de plusieurs cultures, il a des talents.
Et là, alors peut-être avant qu'on revienne sur tous ces talents, est-ce que vous pouvez nous... Enfin, évidemment, à la radio, c'est plus compliqué. Et puis, faute de temps, on ne peut pas passer d'extrait de sa voix. Mais c'est quelqu'un qui avait un physique très particulier, qui avait une voix, une diction. Alors, je ne sais pas s'il était comme ça toute sa vie, mais on a l'impression d'une espèce de prince arabe sorti du désert qui prend son temps pour parler. Et en même temps, il faut prendre le temps de l'écouter parce que ce qu'il dit, les mots sont pesés. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être le personnage ? C'est toujours un peu difficile à la radio. Vous qui l'avez connu aussi, semble-t-il.
Tout à fait.
Quelle impression il faisait ?
Je l'ai connu évidemment plutôt vers la fin de sa vie, dans les années 70, et un peu avant d'ailleurs, déjà. Mais, et puis il faut penser aussi qu'un homme, vieilli, n'est-ce pas ? Dans ses jeunes années, effectivement, il a ce côté princier que vous évoquiez, et un peu séducteur aussi, un très... très beau jeune homme, grand, à la fois élégant et retenu, n'est-ce pas ? Il a parfois joué peut-être aussi de cette beauté, mais quelque chose de plus grand encore que la grandeur physique transparaissait, une sorte de noblesse d'âme qui s'est accentuée avec les années Et de fait, dans son grand âge, Lanza avait cette allure patriarcale, cette sérénité. Gandhi, qu'il rencontre dans les années 30, lui avait donné lui-même le nom de Shantidas, serviteur de paix. Il la portait, cette paix, il la rayonnait. Mais dans une sorte de pudeur, de grand respect des personnes, aucune emprise, rien d'un gourou. C'était tout le contraire.
Ça vaudra le coup d'en parler, justement.
Oui, certainement.
C'est peut-être l'impression qu'on peut avoir quand on apprend à découvrir ce personnage. Alors, si on revient après cet apéritif sur cet homme, sur son enfance, évidemment, on va vite, hein, mais j'imagine qu'il y a un événement qu'il faut quand même citer. Je ne sais pas si après il en a parlé dans ses œuvres ou dans ses poèmes, puisque vous disiez donc qu'il était artiste et on y reviendra. C'est le départ de son père du foyer. Est-ce que ça a joué dans l'itinéraire de cet homme, on imagine, hein, et est-ce qu'il en a dit quelque chose, donc son père qui quitte le foyer conjugal?
Oui, un de ses très beaux poèmes fait parler ce père et s'adresse à lui. L'absence sans doute de cette figure paternelle a pu contribuer aussi à ouvrir l'enfant, le jeune homme, à une sorte de quête d'une vérité, d'une transcendance, d'un repère. Quand on n'a plus de père, parfois il faut chercher un repère ou plusieurs. Et cette quête spirituelle commence très tôt. Il le raconte dans ses viatiques, comment dès l'âge de 7-8 ans, il a des sortes d'éblouissements qui n'ont rien de mystique au sens strictement religieux du terme, mais qui sont plutôt des intuitions spirituelles, voire même philosophiques. Et c'est le fondement de sa pensée qui se dessine là, c'est-à-dire l'idée d'un monde ouvert à une infinité de relations, un monde relationnel.
Racontez peut-être l'expérience qu'il citait souvent. Je crois une espèce d'éblouissement face à de la neige, c'est ça, ou un jour.
Oui, il sort un matin dans son Italie du Sud. Et la chose était sans doute rare, n'est-ce pas? Il a neigé. Il court dans les cailloux. Il tombe. Son genou se blesse, s'ouvre, saigne. Et dans le mélange de son sang, de la neige, de la lumière étincelante sur les cristaux de neige, eh bien, il comprend que tout est lié, que tout est grain, si j'ose dire, des grains de sa chair, aux grains de la matière, aux grains des étoiles, et que tout est tendu de fils invisibles dans lesquels la lumière circule, voyage, comme à travers un vitrail. C'est une image qui lui est très chère aussi. Le monde comme vitrail d'une lumière qui vient de plus loin. Et en même temps, un vitrail où se diffracte cet élan, cet esprit, cette vérité divine.
Alors, donc, l'enfant grandit, on va vite, et donc, il devient philosophe, puisque donc, il fait des études de philosophie. Alors, si je ne me trompe pas, il commence à Florence et puis après à Pise.
Exactement.
Et donc, il devient docteur en philosophie.
Oui, en 1928.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur quoi travaille-t-il et
c'est
à quoi ressent ses années de jeunesse?
Tout à fait, des intuitions que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que cette idée qui le travaille, qui le hante, on pourrait dire, depuis sa jeunesse, il lui donne une forme universitaire. Le titre de sa thèse, c'est Approche de la Trinité spirituelle, pardonnez-moi. J'ai en tête une autre de ses œuvres qui s'intitule Approche de la vie intérieure, que nous venons de rééditer. Mais ça, c'est donc la thèse Approche de la Trinité spirituelle, est une vision du monde, on peut dire, et de l'homme, guidée par cette clé, cette intuition maîtresse. Tout est relation. Et les choses elles-mêmes, comment dire, avant d'être en relation les unes avec les autres, sont des relations, sont des nœuds de relations.
C'est-à-dire les choses?
Les êtres. Vous et moi, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas un ensemble, un agrégat d'éléments. Nous sommes la relation de tout ce qui nous compose. Et cette relation, elle est vivante. Elle est personnelle, bien sûr.
Vous voulez dire y compris physiquement, c'est ça?
Ah ben bien sûr, votre corps, c'est une unité, n'est-ce pas, très mystérieuse d'ailleurs, entre toutes vos cellules, entre vos pensées, vos humeurs, vos sentiments, vos désirs, vos projets, et tout ça est un, à un niveau tellement, tellement, tellement profond, tellement mystérieux, qu'on l'oublie. Et donc... On est tenté souvent de se voir soi-même plutôt comme formé de blocs, des îlots séparés. Et qu'est-ce qui fait l'unité de tout ça? Avons-nous une vie, aimé à dire Lanza? Ou bien en avons-nous plusieurs? Et s'il y en a plusieurs, qu'est-ce qui fait l'unité de ces vies-là? Qu'est-ce qui est la relation unifiante, n'est-ce pas, et l'harmonie du coup de tout ce qui nous compose, mais aussi évidemment de ce qui fait nos relations avec les autres et de ce qui fait dans ce monde que ça ne soit pas un chaos, hein, ou un terrain d'affrontement permanent. Comment penser l'unité du divers?
Alors, Lanza del Vasto, travaille à cette cohérence personnelle aussi, on peut dire, d'une certaine manière. Et
tout à fait.
Il y a dans ces jeunes années donc deux événements, il y a un événement important, c'est donc qu'il vit une espèce, je ne sais pas si on peut dire une espèce de conversion, ou si c'est une conversion réelle à la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ces jeunes années? Alors, il ne s'agit pas d'être indélicat avec la mémoire de cet homme, mais d'illustrer le fait que cet homme peut-être s'est cherché, y compris amoureusement, et que s'il a fini comme un grand homme, il a cheminé comme tout à chacun, on va dire.
Oui, vous faites bien de le souligner. La vie de Lanza est un chemin, est un travail sur, est lié aussi à un travail sur soi, une conversion. Lente, comme le sont toutes les conversions.
Lente, mais il y a eu une lecture décisive.
Non, mais ponctuée, bien sûr, de ces touches de la grâce qui, heureusement aussi, accompagne notre transformation. Mais il a dû, certainement, il avait une nature tellement riche, tellement dense, si vous voulez, qu'il fallait la retourner. Il parle lui-même de conversion de l'intelligence, conversion des sentiments, conversion des actes. Discipliner son corps aussi, il a été un ascète, on peut le dire, et pas dans un sens folklorique, n'est-ce pas? Il jeûnait très souvent, il vivait pauvrement, dans un détachement réel et à tous égards, n'est-ce pas? Et jusqu'au bout, il a résisté, je crois, à tous ces penchants naturels qui sont en nous, le plaisir, la possession, la domination,
Mais donc sa vie amoureuse, entre guillemets, est-ce que vous pouvez dire un mot de sa vie amoureuse sans rentrer trop dans le détail?
C'est... Inévitablement, et surtout dans, imaginez, n'est-ce pas, un jeune prince dans les années 20, vivant dans les belles villes que vous avez citées, Florence, Pise, Rome et ailleurs, Paris, évidemment il a eu des aventures. Et il a parfois cru, il dira, l'amour a été dur, a été sévère envers moi. Il a parfois cru pouvoir donner son cœur et puis ça ne se faisait pas. Et la femme qu'il attendait, la femme qu'il espérait, il a mis du temps à la trouver. Il s'est marié en 1948, il avait donc 47 ans.
Il a été amoureux avant,
il avait été fiancé, fiançailles rompues avec une belle américaine qui restera, comme il dit lui-même dans un poème, qui restera dans son cœur comme un rameau nu, n'est-ce pas, une attente. Dans mon cœur comme un rameau nu demeure l'amour d'une absente. Oui, c'était un grand amoureux.
Et sur sa conversion, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Donc, vous dites que ça s'est fait par étapes, mais cette lecture de saint Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme saint Augustin, il y a eu il y a un avant, un après.
Certainement.
Qu'est-ce qu'il a dit de...
Alors, son système philosophique que j'ai évoqué tout à l'heure, sa vision de la relation, était déjà très clairement dessinée en lui. Nous sommes en 1925, il a 24 ans. C'est dire la précocité quand même, hein, de sa pensée philosophique. Mais dans ces années-là, il est athée et fortement anticlérical, n'est-ce pas? Tout ça en lien avec ce que j'évoquais un petit peu de son côté libertin, en tout cas très libre. Et puis, comme c'est un grand esprit, un étudiant en philosophie, un de ses amis lui dit, mais puisque tu te dis lié par tes origines familiales à saint Thomas d'Aquin, connais-tu vraiment son œuvre ? Et Lanza dit, mais non, mais qui lit encore aujourd'hui saint Thomas d'Aquin ? Va voir, lui dit l'autre. Et de fait, il se rend à la bibliothèque de Pise, il ouvre une page de l'œuvre de saint Thomas, dans laquelle il est parlé de Dieu comme relation, plus précisément les personnes divines sont relations subsistantes en bonne théologie. Et cette vision chrétienne d'un Dieu relationnel, d'un Dieu qui est un et pluriel, tout à coup rejoint sa pensée profane, si j'ose dire, et qui s'était déployée en dehors du christianisme, et il comprend que c'est la source, que le Dieu trinitaire, étant l'unité d'une pluralité, a fait un monde qui est à son image, aussi sur ce plan-là. Toute chose porte la trace, la marque du mystère divin. Nous sommes trinitaires, vous et moi, n'est-ce pas ? Nous sommes pluriels, nous avons une pensée, nous avons des émotions, nous avons une volonté. J'évoque ici la triade célèbre, n'est-ce pas, des trois facultés, l'intelligence, la sensibilité, la volonté. Eh bien, c'est autour de cette tresse, si vous voulez, des trois brins de ce qui nous constitue, spirituellement en tout cas, qu'il va nouer, comme je le disais, une vision de l'homme et du monde qui soit entièrement baignée du mystère trinitaire.
Alors, il faut qu'on avance parce que le temps passe et on sent combien vous connaissez cet homme. Donc Lanza del Blasto quitte tout. Et il part donc marcher, alors il marche un certain temps, il part entre autres en Inde, et là-bas il rencontre Gandhi. Alors on ne pourra pas tout dire de ces voyages qui ont été en fait très nombreux, il faudra que vous le disiez, en fait j'ai l'impression qu'il est parti pèleriner en fait quelque part en quête de
il
lui-même.
Il a été pèlerin toute sa vie.
Toute sa vie, en tout cas il l'a été physiquement pendant quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces années de pèlerinage, de cette rencontre avec Gandhi, et puis la publication de l'ouvrage qu'il a fait connaître du coup après.
Tout à fait. Alors dès avant son départ pour l'Inde, à fin 1936, il a des fourmis dans les jambes, si j'ose dire. Il voyage, il sillonne l'Italie, par exemple, du nord au sud, avec un ami. C'est un homme de plein vent. Et puis, nous sommes donc dans ces années 30 où les bruits de bottes, n'est-ce pas, et la montée du nazisme partout en Europe fait qu'il cherche, mais qui peut avoir une parole juste dans un tel contexte ? Et il le trouve dans la personne de Gandhi. Il se rend en Inde, il voyagera à travers toute l'Inde, plusieurs milliers de kilomètres, pendant les années 1937, passera plusieurs mois autour de Gandhi. Il part là-bas, non par exotisme, ni par appel des Orients lointains, mais comme il le dit lui-même, pour devenir meilleur chrétien, c'est-à-dire pour voir comment un homme qui vient de loin, qui vient d'ailleurs, un hindou, pourrait nous aider, nous, chrétiens, à expérimenter et à vivre concrètement les béatitudes. Heureux les doux, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi dans un contexte politique, celui de l'occupation, de la décolonisation ? C'est le tournant de sa vie, n'est-ce pas ? 1937, il devient disciple, tout en restant chrétien, bien sûr.
Et Gandhi lui donne ce nom, donc rappelez ?
Oui, de Shantidas.
Quand il quitte du Gandhi.
Serviteur ou fils de la paix. Et il repart de l'Inde, fin 1937, avec un message immense. Apporté à l'Occident, il a le projet de fonder en Europe un ordre des Gandhiens d'Occident, comme il voulait l'appeler, et il arrive, et c'est la guerre. Donc il faudra qu'il patiente pendant plusieurs années.
Mais il publie pendant la guerre, donc, alors, cet ouvrage qu'il a fait connaître.
Exactement, 1942, il publie Le pèlerinage aux sources, qui le rend très célèbre, livre qui a été traduit en de multiples langues, qui est constamment réédité, nous venons de le rééditer encore en collection Folio. Ce chef-d'œuvre est à la fois un merveilleux récit de voyage, avec l'Inde des années 30, qui nous fait découvrir, c'est un poète, n'est-ce pas ? Donc il sait écrire, et en même temps c'est un message de paix, un message de renouvellement social, parce que Gandhi n'est pas seulement l'adversaire ou disons le héros de la lutte pour la décolonisation de l'Inde, la libération de l'Inde, il est aussi un homme qui avait une vision politique, une vision sociale, et c'est ce trésor que Lanza veut faire connaître à l'Occident à travers le message de la non-violence.
Ce matin, donc, une émission Vivante Église sur Lanza del Vasto, à la découverte de cet homme, si on ne le connaît pas, de ce personnage, et plus peut-être, nous dira Daniel Vigne. Daniel Vigne, donc, qui est, entre autres, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse, et fin connaisseur de Lanza del Vasto. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, peut-être, de ce qu'on vient d'écouter ? C'est donc un enregistrement avec... Est-ce que Lanza del Vasto chantait, ou en tout cas il y avait sa femme Chanterelle qui chantait ?
Oui, il chantait, on entend sa voix dans le chœur que nous venons d'entendre, on entend surtout celle de son épouse, Chanterelle, qui était une musicienne, une chanteuse exceptionnelle, et le chant lui-même est extrait d'un chœur, d'une pièce de théâtre que Lanza a écrite, qui s'intitule Noé. C'est donc l'Alléluia de Noé.
Alors, si on continue sur Lanza del Vasto, en préparant l'émission, évidemment, j'ai regardé un certain nombre de choses sur Internet, et à un moment, je suis tombé sur une vidéo de Daniel Vigne, ou en tout cas, on vous voyait. Et donc, je vais suivre votre pensée, puisque vous êtes beaucoup plus fin connaisseur que moi, évidemment, de Lanza del Vasto. Et là, vous disiez dans cette vidéo que Lanza del Vasto avait quelque chose de prophétique, a eu quelque chose de tout à fait prophétique pour sa génération. Alors, on a commencé à l'entrevoir avec ce que vous avez dit de sa rencontre avec Gandhi, puis cette espèce d'envoi en mission, entre guillemets, de Gandhi. La première chose que vous citiez, c'est que dans les années 30, il fallait croire au message de Gandhi, ce qui n'était pas donné à tout le monde, d'avoir cette intuition, en fait. Qu'est-ce à dire ? Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler le contexte des années 30, et puis pourquoi d'avoir autant de nez, entre guillemets, était déjà en soi quelque chose d'assez prophétique ?
Oui, ben on le disait tout à l'heure, dans une Europe qui s'apprêtait à la grande boucherie, au carnage qu'a été la Seconde Guerre mondiale, il fallait du flair, n'est-ce pas, pour ne pas tomber dans ces rhétoriques dualistes, n'est-ce pas, fallait-il être pour ceci, contre cela, et après la guerre, à plus forte raison, n'est-ce pas, l'opposition des deux blocs, la violence se nourrit toujours de la dualité, hein, et de la brutalité des idées fausses, des idées courtes. Il fallait voir plus loin. Et il est remonté aux sources, c'est le sens aussi du titre de son livre, Le pèlerinage aux sources, pour essayer de voir d'où viennent ces déchaînements de violence, de folie meurtrière, et pourquoi ne pouvons-nous pas nous empêcher, hein, de faire la guerre, et toujours avec de bonnes raisons, car c'est toujours l'autre, n'est-ce pas, qui est le méchant dans ce genre de conflit. Comment l'Allemagne, pour prendre bien sûr un exemple précis ici, a-t-elle pu se laisser prendre à la rhétorique d'un dictateur devenu fou, avec pourtant cette haute culture du peuple allemand, avec cette sagesse, cette philosophie dont il était héritier? Qu'est-ce qui dévoie, qu'est-ce qui fausse l'esprit des hommes au point de s'engager avec, je le répète, la plus parfaite bonne conscience, n'est-ce pas, dans ces massacres, et jusqu'à la bombe d'Hiroshima, dont on ne peut pas dire, n'est-ce pas, qu'elle soit un acte de bravoure et très honorable. Hein. Donc,
alors qu'est-ce qu'il découvre justement?
Ce qu'il découvre.
Oui, qu'il va chercher à la racine. Alors, oui. On déflore un petit peu ce qu'on évoquera peut-être plus tard pour
non,
tout à
nous
chacun.
Non, nous sommes au cœur du sujet. C'est que notre intelligence, dès lors qu'elle est tournée vers le profit et la domination, dès lors qu'elle est un instrument de puissance, devient diabolique. Et donc, il y a beaucoup d'intelligence dans la guerre, dans la façon de la préparer, dans la façon de la mener. Il y a une sorte de perversité de ce qu'il y a de meilleur en nous. Et donc, ce que Lanza rattachait volontiers au récit du péché originel dans la Bible. Cette façon, disait-il, de manger, de saisir l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire d'en jouir, au lieu d'utiliser cette connaissance au service de l'amour, n'est-ce pas, et de l'émerveillement, d'en faire un instrument de possession, de captation, et de domination. Voilà le piège. Par conséquent, il faut remonter jusqu'aux sources.
Jusqu'à ses intentions, aux intentions de tout à chacun.
Exactement, pour opérer à ce niveau-là un retournement intérieur. Les solutions des problèmes extérieurs, dit-il, ne se trouvent pas à l'extérieur. Toute solution se trouve sur un autre plan que les problèmes que l'on rencontre. La cause est ailleurs que les faits. Donc remontons des effets aux causes. Et alors, par conséquent, creusons dans l'intérieur pour chercher les solutions extérieures.
Alors du coup, on n'en a pas parlé, mais un peu plus tard dans sa vie, j'ai plus en tête l'année, vous allez m'aider, il ouvre ou il crée la communauté de l'Arche.
En 48.
Qui n'est pas celle...
L'année de son mariage.
Qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de connaître, en tout cas quand on est chrétien, donc fondée par Jean Vanier. C'est une autre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette communauté de l'Arche, en fait, où il a essayé quelque part de... Enfin, pas quelque part, de faire une espèce d'école, en fait, de vie, de ce que vous venez de décrire,
oui,
cette école de transformation intérieure.
Oui. Alors l'Arche était à la fois une communauté ou des communautés, des lieux de vie, et puis un mouvement. Et des groupes d'amis que j'ai connus, d'ailleurs, dans toute la France et dans le monde, s'inspiraient de ce message, sans pour autant vivre en communauté. Mais partout, l'idée était la même. Essayer concrètement, modestement, mais surtout avec sérieux, je veux dire, à mettre en œuvre personnellement et avec d'autres aussi, les idées, les messages essentiels de la non-violence. Par exemple, si on se dit non-violent, est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur, je ne sais pas, notre mode de consommation ? Est-ce que la non-violence est compatible avec justement une consommation effrénée ou indifférente à la pollution qu'elle génère ou bien aux injustices qu'elle présuppose ? Comment penser sa vie et mettre en conformité, on pourrait dire, sa vie avec l'idée d'une certaine justice, tout simplement ? Comment éduquer nos enfants en s'inspirant, n'est-ce pas, de cette pédagogie qui, au fond, est celle de Dieu, parce que Dieu est foncièrement non-violent envers l'homme. Il supporte, il endure toutes nos trahisons, et en même temps, il travaille les cœurs jusqu'à les amener au point de conversion que nous avons évoqué aussi tout à l'heure. Enfin, comment penser, évidemment, une politique, une vie sociale qui ne soit pas basée sur la violence et qui fasse appel à la conscience. C'est la grande idée, n'est-ce pas ? Alors, ces communautés de l'Arche et les mouvements qui lui étaient rattachés voulaient témoigner, un peu comme dans un laboratoire, si vous voulez, de la fertilité, de la fécondité de cet idéal, et s'adresser à des hommes de bonne volonté, au sens le plus large.
On disait donc qu'il y avait quelque chose de prophétique chez cet homme. Là, on le voit, puisque, on va dire, au début fin des années 40, début des années 50, créer une communauté de vie qui a quelque chose de
très... De pauvre.
De pauvre, d'écologique, pardon.
Les deux.
Alors, vous me direz pourquoi c'est les deux.
Tout à fait.
Alors, évidemment, dans toute la tradition bénédictine, il y avait déjà une manière de vivre ça, mais qu'est-ce qu'on peut dire du côté prophétique de la communauté de l'Arche? Alors aujourd'hui, la communauté de l'Arche est beaucoup plus réduite, mais c'est vrai que quand on lit Laudato aussi, aujourd'hui, bon, ça trouve évidemment quelques échos avec ce qu'essayait de viser en partie cette communauté.
Absolument. Alors sur le nombre des engagés dans la communauté de l'Arche, il a un peu fluctué. En vérité, il est à peu près aujourd'hui au niveau où il était à l'époque de Lanza, 150 personnes à peu près, réparties en plusieurs communautés ou même lieux de vie non communautaires.
En France et ailleurs ?
En France et ailleurs, tout à fait. Après, il y a beaucoup, beaucoup de, on pourrait dire des milliers de gens qui ont connu, fréquenté les groupes d'amis que j'évoquais tout à l'heure, qui en gardent quelque chose et qui ont leurs propres engagements. Je suis un peu dans ce cas, si vous voulez, je ne suis pas du tout membre de la communauté de l'Arche, mais j'en suis proche et j'essaye de faire connaître à travers l'association des amis de Lanza del Vasto son fondateur, sous tous les aspects d'ailleurs. Mais ceci dit, oui, il y avait quelque chose de prophétique, parce que s'inscrire en faux contre le culte du progrès, contre l'idolâtrie de la technique, de la production à effrénée, n'est-ce pas, dans les années 50, c'était vraiment mal vu. C'était prêché dans le désert. Et Lanza était très seul.
En plein début des Trente Glorieuses, donc...
Absolument, absolument. Et avec une lucidité extraordinaire, il voyait que ce mammon, ce faux dieu, nous menait droit à l'abîme. Et nous y sommes, parce que notre planète, elle va mettre beaucoup de temps à guérir des blessures que nous lui infligeons. Et évidemment, vous la citiez, l'encyclique du pape François, Laudato si, est comme, comment dire, une approbation a posteriori de ce message. Lanza en a été un précurseur, tout à fait clairement.
Alors, il y a d'autres choses où vous dites qu'il a été prophétique dans cette période d'après-guerre, c'est ces distances qu'il a prises avec le marxisme, avec la torture lors de la guerre d'Algérie ou avec le nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns de ses engagements politiques qui ont peut-être marqué ceux qui sont de votre génération, où ils l'ont vu ne serait-ce qu'à la télé, marchant par exemple dans le Larzac?
Oui.
Quels ont été ces grands engagements politiques qu'il faut retenir comme... Alors, des prolongements
En vérité, ils sont peu nombreux. Lanza n'était pas un activiste, n'était pas un militant courant, n'est-ce pas, de meeting en meeting, pas du tout. Il est intervenu ponctuellement, mais à chaque fois avec une justesse morale et spirituelle incontestable. Par exemple, vous l'évoquiez, au moment de la guerre d'Algérie, tout le monde le sait, l'armée française s'est laissée entraîner par le piège de la violence, n'est-ce pas, à la pratique de la torture. Et cela, ce n'était pas à son honneur, et ça ne pouvait pas ne pas être dénoncé. Lanza s'est dressé dès lors qu'il a su, n'est-ce pas, avec quelle violence inhumaine on traitait les prisonniers contre cette barbarie. Et plus largement, au moment de la guerre d'Algérie, on sait qu'il y a eu en France aussi des débordements inacceptables, des arrestations arbitraires, des violences policières, et avec quelques-uns, pas seulement d'ailleurs des compagnons de l'Arche, mais des gens aussi connus que François Mauriac, que Louis Massignon, que l'abbé Pierre et d'autres, il a poussé un cri d'horreur, pourrait-on dire, en disant mais non, notre conscience ne peut pas accepter ça. Et c'était pas une non-violence idéologique, c'était, je répète, un cri de la conscience. Et donc il a jeûné. Certains de ses compagnons se sont présentés dans les commissariats en disant mais nous aussi nous sommes suspects, arrêtez-nous, emprisonnez-nous. et c'est toujours la façon, n'est-ce pas, non-violente d'agir, qui est d'interpeller la conscience. Et quelque chose s'est passé, certainement. Et prophétiquement encore, évidemment, Lanza ouvrait la voie à ce qu'a été l'acceptation, finalement, par De Gaulle de l'indépendance de l'Algérie. Et puis, il y a eu, et je voudrais le rappeler avec force, avec émotion aussi, en 1963, au début du Concile, un acte d'une grande force, d'une grande discrétion aussi. Lanza s'est rendu à Rome dans un monastère trappiste, et là, pendant tout le carême, pendant 40 jours, il a jeûné, c'est-à-dire n'a pas mangé. Il buvait de l'eau, et ce jeûne était une prière en faveur des pères, des évêques réunis au concile, pour les supplier de permettre à l'Église de prendre plus clairement le chemin de la non-violence, de prendre plus clairement une option évangélique par rapport à tous ces débats dans lesquels elle s'est parfois enferrée au fil des siècles, n'est-ce pas, justifiant telle guerre, bénissant les canons, prenant parti de manière parfois très ambiguë. Retrouver les sources là aussi de l'enseignement évangélique. Et ce jeûne a porté ses fruits, puisque le lundi de Pâques, le surlendemain de la fin de son jeûne, le pape Jean XXIII publiait l'encyclique Pacem in Terris. Et depuis cette date, pourrait-on dire, tous les souverains pontifes, tous les papes, Paul VI et Jean-Paul II, et aujourd'hui le pape François, le pape bien sûr Benoît XVI aussi, ont tracé plus fortement, plus nettement, ce chemin de paix. Heureux ceux qui font la paix, est-il écrit, heureux les doux, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment nous, chrétiens, pouvons-nous être de ceux qui font la paix? Pas des pacifistes au sens bêlant du terme, mais au sens actif.
Alors c'est ce qu'on va voir dans une troisième partie, on va essayer de voir comment tout à chacun peut essayer de vivre cet héritage philosophique et spirituel. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu citer dans ses côtés prophétiques, entre autres son ouverture au dialogue interreligieux, mais bon, on ne peut pas parler de tout, c'est bien comme ça, il faudra que vous reveniez. On écoute un deuxième extrait que vous avez sélectionné et qui parle aussi de cette communauté de l'Arche.
C'est une séquence de Pâques mise en musique, c'est-à-dire harmonisée, par Lanza del Vasto et chanté par lui et Chanterelle.
Mors À Argelès-Gazost, 91.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission sur Lanza del Vasto, à la découverte de cette figure avec Daniel Vigne, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Dans cette dernière partie d'émission, Daniel, je voulais avec vous, d'une certaine manière, essayer de voir comment Lanza del Vasto peut parler à tout à chacun, ce qui donnera peut-être envie à nos auditeurs de se plonger dans son œuvre. Vous disiez avant cette deuxième pause musicale, vous disiez en fait que la non-violence commence toujours par une interpellation de la conscience de l'autre. Alors qu'est-ce à dire ? Comment c'est le processus de la non-violence illustré ou inauguré, je ne sais pas, par Gandhi, comment ça se passe ? C'est quoi ? Il n'y a pas une méthode non-violente, mais enfin il y a un agir non-violent.
Lanza a écrit un livre qui s'intitule Technique de la non-violence. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre d'une méthode, mais c'est une méthode paradoxale, évidemment, c'est pas une technique au sens matériel du terme. C'est une méthode qui commence par soi-même. La non-violence présuppose avant tout d'acquérir en soi-même la paix que l'on cherche. On va pas pacifier la planète, n'est-ce pas, si on est soi-même animé de passions haineuses. Et donc c'est un travail sur soi. C'est donc un combat.
Et Lanza del Vasto le dit, en fait, il disait la non-violence, c'est pas pour, entre guillemets, je sais pas qu'il le disait pas comme ça, mais pour les mauviettes, il faut avoir un tempérament de guerrier au départ pour se convertir à la non-violence.
Déjà, le mot le dit, là où il y a non-violence, c'est qu'il y a violence, c'est qu'il y a conflit. Maintenant, comment affronte-t-on ou fuit-on d'ailleurs ce conflit ? Est-ce qu'on jette de l'huile sur le feu ? Est-ce qu'on ajoute la violence à la violence ? C'est une réponse possible, c'est même la plus naturelle, la plus spontanée. On connaît ces résultats, n'est-ce pas ? Et ces pièges infernaux. On peut fuir aussi, on peut s'abstraire du conflit et même peut-être chercher une sorte de sérénité.
Ce qui peut être une fausse non-violence.
Qui n'a rien à voir avec la non-violence. La non-violence, disait souvent Lanza, est une action, elle est un engagement, elle est un risque, elle est un combat. Mais elle présuppose une chose essentielle qu'on oublie, c'est que l'adversaire est un homme. Pas une bête, pas un monstre, pas une machine ou un objet à détruire, mais un homme qui a d'ailleurs lui-même une conscience et qui se donne de fausses raisons peut-être, mais pas forcément toutes, n'est-ce pas, de faire ce qu'il fait. Et donc il faut aller déjouer, débusquer, soulever, délégitimer ce qui est la racine de sa violence et peut-être aussi de la mienne. Car la violence de l'autre, même dans le cas, n'est-ce pas, du fou furieux, du terroriste, de l'assassin qu'il faut neutraliser, n'est peut-être pas totalement innocente de ce qu'on lui a fait subir, des racines historiques du mouvement auquel il appartient, etc. Il faut pouvoir faire un examen de conscience. La non-violence consiste à se juger soi-même avant même de juger l'autre. Et de chercher ce qui est à retourner, ce qui est à convertir en soi, avant de frapper sur la tête de l'ennemi comme s'il n'avait, n'est-ce pas, rien d'autre à attendre de nous.
Et ce préalable fait, donc il faut en fait inciter l'adversaire à faire ce travail de maïeutique, enfin d'introspection, et en tout cas trouver une manière de l'interpeller,
et oui,
qui lui pose question, c'est ça?
Ça, c'est le grand génie, n'est-ce pas, très, très paradoxal, tellement subtil et tellement évangélique. De la non-violence. Pousser l'autre à la faute. Tendre la joue, l'autre joue. Quand Jésus dit ça, n'est-ce pas, il ne nous invite pas à être des victimes passives. Qu'est-ce qu'il veut dire, hein? Il le fait d'ailleurs dans son procès, lorsqu'il demande au soldat qui l'a frappé, « Si j'ai mal frappé, dis-moi où est le mal, et si j'ai bien frappé, pourquoi me...
Si j'ai bien parlé, pardonnez-moi,
pourquoi me frappes-tu ?» Toucher l'autre... C'est-à-dire peut-être l'inciter à aller au-delà de ce qu'il souhaite. Hein? Jésus dit aussi, si ton ennemi te force à faire un mille, eh bien, fais-en deux avec lui. C'est-à-dire, va jusqu'au point où c'est plus possible. Et alors, ça peut paraître inactuel ou impossible, mais voyez comment beaucoup de luttes sociales, qui pouvaient dégénérer en lutte guerrière, se sont arrêtés. J'entendais à l'instant, n'est-ce pas, la trêve avec les FARC, n'est-ce pas, en Colombie, voilà, enfin ce conflit s'arrête. Pourquoi ? Il n'y a pas de vainqueur. Mais parce que c'est plus possible. Quelque chose de l'ordre de la conscience internationale, d'ailleurs, et de partout, eh bien, on a pesé pour dire, mais arrêtez. Il faut toucher ce point-là, ce seuil-là, et non pas se cantonner à des mesures de police qui sont parfois nécessaires, bien entendu. Il ne s'agit pas ici d'interdire absolument, n'est-ce pas, ce qui est parfois inévitable, mais de voir plus loin. Qu'est-ce qui est la cause des conflits que nous vivons aujourd'hui, des enjeux de civilisation que nous connaissons? Remontons. Et le pape François nous y invite, n'est-ce pas, en invitant chrétiens et musulmans à se connaître, à se comprendre et à ne pas en rester à des clichés meurtriers. Comment se retrouver homme, n'est-ce pas? L'autre est un homme. Voilà le présupposé fondamental de la non-violence.
Alors, il faudra qu'on refasse une émission, mais uniquement sur la non-violence. Pour finir cette émission, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la place de la méditation? Quelle place avait la prière ou la méditation dans la vie de Lanza del Vasto? Est-ce que Lanza del Vasto était, on va dire, il peut apparaître aussi de prime abord comme un peu, je sais pas, syncrétique ou New Age aussi à certains, et quid aussi de ce qui se vit dans les communautés de l'Arche?
Alors, nous avons sous les yeux, je vous les ai apportés, deux livres qui se complètent en quelque sorte. D'un côté, les approches de la vie intérieure, on les a cités. C'est un merveilleux petit livre.
Paru aux éditions des Clés de Brouwer.
Exactement, et qui fait faire les premiers pas vers le monde intérieur. Et ça ne présuppose pas d'être chrétien, d'être croyant au sens catalogué du terme, n'est-ce pas? L'ouverture au mystère, à ce qui est plus grand que soi. Commencer, disait Lanza, par faire le rappel. C'est-à-dire, il invitait, n'est-ce pas, à s'arrêter juste quelques instants, une demi-minute, deux, trois, quatre fois par jour. Souvenez-vous, vous êtes là. Ne vous laissez pas happer, entraîner, engloutir par vos activités. Coupez la chaîne, un tout petit moment. Approche de la vie intérieure. Et puis il y a l'autre livre que vous avez aussi sous les yeux, Commentaire de l'Évangile.
Toujours aux éditions des Clés de Brouwer.
Exactement. Et là, effectivement, Lanza se révèle pour ce qu'il est, chrétien et catholique et entièrement fidèle, n'est-ce pas, à la foi de cette Église, de notre Église, mais avec une ouverture, un respect de tout cet univers de sagesse qu'il a reconnu, qu'il a admiré aussi en Inde et ailleurs, toutes ces quêtes de vérité qui, de fait, même dans le New Age, aujourd'hui, sont vécues souvent avec sincérité. Il n'y a pas à mépriser tout ça et à le balayer d'un revers de main. Il y a, au contraire, à entendre, n'est-ce pas, et à accompagner, je crois, la quête de tout un chacun. Alors peut-être je conclurai sur une figure biblique et en même temps un peu universelle, celle de Saint Jean-Baptiste. Lanza se plaçait un peu dans le sillage de ce précurseur qui, faisait-il remarquer, ne s'est pas fait chrétien personnellement, au sens où il n'était pas disciple du Christ. Lanza l'était bien sûr, mais je veux dire, il y a place pour un chemin que Jean-Baptiste permet de faire et qui est un chemin de conversion, de retournement, de vie intérieure et aussi de vie extérieure, de simplicité de vie par exemple, de sobriété, qui est, n'est-ce pas, très actuelle.
Merci beaucoup Daniel Vigne d'être venu nous parler de Lanza del Vasto. Alors pour finir, on va reciter donc les titres des ouvrages que vous avez mentionnés. Approche de la vie intérieure aux éditions Des Clés de Brouwer. Commentaire de l'Évangile, toujours aux éditions Des Clés de Brouwer, évidemment de Lanza del Vasto, et puis ce livre qu'on a cité au début de l'émission, qui a été son premier best-seller, Le Pèlerinage aux Sources, paru donc aux éditions Poche, Folio.
Oui.
Voilà, et puis on donne un site internet aussi, www.lanzadelvasto.fr, www.lanzadelvasto.fr.
Un site qui va être entièrement rénové dans 3 jours pour l'anniversaire des 115 ans de la naissance de Lanza, et que je vous invite à visiter avec notamment des images de ses dessins, de ses sculptures,
puisque c'était aussi
et sa voix.
Un artiste très complet. Merci beaucoup Daniel. Voilà, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.